Laissez les enfants pleurer, ne tarissez pas leurs larmes. Elle lave, elle désarme ce qui les fait chavirer. Laissez les enfants verser ces ruisseaux qui les apaisent et s'en vont noyer les braises de leurs chagrins insensés. Laissez-les. Empêcher que l'on réprime cette rosée légitime. Ils ont des fleurs à arroser. Laissez les enfants pleurer avant qu'on les abîme. Laissez les enfants rêver, ne les cassez pas d'avance. Donnez-leur au moins la chance d'apprendre un jour à voler. Laissez les enfants choisir des chemins qui vous dépassent. N'effacez jamais leurs traces, vous les verrez revenir. Laissez-les. Ne souffrez pas qu'on dédaigne la lumière qui les baigne. Ils ont des richesses à donner. Laissez les enfants rêver avant qu'on les éteigne. Laissez les enfants grandir, ne renforcez pas les cages, ne craignez pas les orages, ni les torrents à franchir. Laissez les enfants gagner le droit d'étendre leurs ailes dans la lumière nouvelle d'une vie à inventer. Laissez-les. Ils vont s'envoler ensemble, un même ciel les rassemble. Ils ont des sommets à gravir. Laissez les enfants grandir avant qu'ils nous ressemblent. Laissez-les.
Bonjour, bonjour, des cailloux dans l'engrenage, l'enfance, poil à gratter sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre l'indicatif d'Anne Sylvestre, Laissez les enfants. Nous sommes le 20 mai 2026, 170e émission des cailloux dans l'engrenage. Et nous avons une invitée de marque, la grande spécialiste de la chanson française, qui s'appelle Françoise Tenier et qui est au comité sur la chanson de l'Académie Charles Cros, qui est au jury. Voilà, bonjour Françoise.
Bonjour Florence.
Alors, tu peux te présenter peut-être un peu plus ?
Moi, je suis spécialiste de la chanson enfant. Je suis critique de disques pour enfants depuis longtemps. J'ai été bibliothécaire avant. J'ai créé avec Anne Bustaret une commission qui s'appelait la commission d'écoute de disques pour enfants. J'écris dans diverses revues. J'ai un blog et puis je suis effectivement partie du jury jeune public de l'Académie Charles Cros, qui décerne chaque année un grand prix et qui décerne chaque année une série de coups de cœur à des disques pour enfants, mais pas seulement de la chanson.
Et c'est ta deuxième venue à Radio Libertaire dans notre émission, en tout cas.
Absolument.
Et nous nous sommes connus au Salon du Livre.
Absolument.
Voilà, c'est un grand lieu de rencontre intéressante. Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler de l'histoire de la chanson pour enfants. Et ça va faire plusieurs émissions parce que c'est très dense, l'histoire de la chanson pour enfants. Quand commence-t-elle, Françoise ?
Alors déjà, il faudrait définir ce qu'est la chanson pour enfants. Florence, si je te demande, je te dis chanson pour enfants, tu penses à quoi ?
Je pense à plusieurs choses, à des chansons qui n'étaient à l'origine pas pour enfants et qui, dans mon enfance, j'avais un petit 45 tours qui s'appelait chansons des enfants, je ne sais plus comment, un petit 45 tours avec des petits personnages qui dansaient. Et c'était des chansons traditionnelles, mais qui, au départ, n'étaient pas pour enfants. Par exemple, les chansons qu'on apprenait à l'école, Jean Petit qui danse, ce n'était pas une chanson pour enfants, vu que c'était un truc atroce d'une torture d'un type voilà, au Moyen-Âge. Mais pour moi, c'est ça. Et puis aussi, au XXe siècle, il y a des chanteurs des chanteurs et des chanteuses qui ont fait des disques spécifiquement pour les enfants. Voilà, et ça, j'étais déjà adulte. Hein. Enfin, je ne les connaissais pas avant.
Bah, tu as très bien défini les choses. Alors, il y a aussi tout un répertoire. Il y a effectivement ces chansons traditionnelles qui sont issues de chansons adultes. Parce que de tout temps, les enfants ont récupéré des chansons du répertoire adulte. Et ça a continué ensuite avec Brassens, avec Pierre Perret et quelques autres. Mais il y a aussi un répertoire spécifique pour les enfants qui est un répertoire pour la petite enfance. Je pense à tout un répertoire de comptines, de jeux de doigts, de formulettes, de berceuses. Et ça aussi, ça pourrait faire une émission entière, ouais. Parce que c'est extrêmement riche. Alors, ce répertoire traditionnel, souvent, il est un peu, j'ai envie de dire, regardé de haut par les adultes. Ouais, mon enfant, c'est pas très intéressant. En fait, c'est faux. C'est un répertoire qui est très intéressant au niveau du développement des enfants. C'est un répertoire ludique et les enfants, en fait, quand on leur en donne, ils adorent ça. Et ça avait été remis à l'honneur, entre autres, par un éditeur dont on parlera pas cette fois parce qu'il est des années 80. C'est Enfance et Musique.
Ah oui.
Mais aujourd'hui, on va parler plutôt de la chanson d'auteur pour enfants. Alors, tu vas me dire que toutes les chansons ont un auteur, même les chansons traditionnelles.
Ou une autrice.
Hein, on sait par exemple que c'est Fabre d'Eclantine qui écrit Le Plus Bergère. On sait que J'ai du bon tabac, c'est écrit par un certain Abbé de Lattaignan. Que La boulangère à des écus a été écrit par un certain Nicolas Gallet qui était épicier et auteur d'opéra comique au XVIIIe siècle. Et même une chanson comme Pirouette cacahuète, dont on pourrait penser qu'elle est traditionnelle, elle a été écrite par une certaine Gabrielle Grandière, institutrice à Alençon, qui l'a écrite en 10 minutes dans les années 50, en 1951. Il y a d'ailleurs, si on cherche sur le net, il y a une visio avec Madame Grandière qui explique comment elle a écrit Pirouette cacahuète.
Ah, j'étais pas née.
Voilà. Et c'est assez amusant. Alors, de même, il y avait Colchic dans les prés qui a beaucoup marché dans les mouvements de jeunesse unique. C'est pas du tout une chanson traditionnelle. Ça a été écrit en 1943 par une dame qui s'appelle Francine Coquenpot et qui est décédée en 2001. Voilà, donc toutes les chansons peuvent avoir un auteur. Alors, dans l'autre sens, il y a aussi des chansons qui sont passées dans la tradition, mais dont on a oublié l'auteur. Je pense par exemple à des chansons d'Anne Sylvestre, comme Berceuse pour une pomme, Veux-tu monter dans mon bateau, Hérisson. On oublie complètement que c'est elle qui les a écrits.
Ah, mais moi, j'ai pas oublié.
Toi, t'as pas oublié, mais il y en a qui ont oublié. Et de même, il y a un autre exemple avec Christiane Auriol, dont on va écouter tout à l'heure. Christiane Auriol a écrit une chanson qui s'appelle La Maison Citrouille.
Ah oui.
J'habite une maison citrouille. Et cette chanson, ouais. Tout le monde pense qu'elle est traditionnelle. Pas du tout. C'est Christiane Auriol qui est toujours vivante et bien vivante. Voilà.
Elle a été interprétée par Pierre Chêne aussi.
Elle a été interprétée par Pierre Chêne. Et beaucoup de gens, en fait. C'est vraiment un classique, c'est devenu un classique. Alors, faut aussi, quand on parle de chansons pour enfants, il faut aussi voir un peu leur mode de transmission. Les transmissions de la chanson enfant, ça a commencé par des éditions papier au milieu du 19e siècle. Et puis ensuite, surtout au 19e siècle, il y avait dans le milieu bourgeois, il y avait le piano qui trônait au milieu du salon et les mamans qui jouaient des mélodies à leurs enfants. Et cette chanson pour enfants, elle est présente dans les Cylindres d'abord et puis dans les 78 tours. Et en fait, jusqu'en 1975, elle tient assez peu de place dans les catalogues d'éditeurs phonographiques. Et en fait, il s'agit essentiellement de chansons traditionnelles, parce qu'à l'époque, on lui préfère les contes et romans adaptés. Mais on peut remonter, on va commencer par parler de la chanson scolaire. Alors, comme chacun sait, l'école laïque, elle a commencé en 1800. Elle a commencé en 1889, si je ne me trompe pas. Et donc, en 1989, il y a un groupe éphémère qui s'appelle le groupe Autre Chose, qui était dirigé par Gérard Hotelin. Gérard Hotelin est un éducateur musical, musicien, éducateur musical, qui était partie prenante d'une association qui s'appelait Clavicorde, qui voulait que la musique aille aux enfants et pas l'inverse, et qui a fait un super boulot et qui est à l'origine des CFMI, Centre de Formation des Musiciens Intervenant à l'École. Et donc, pour le centenaire de cette école laïque, il a réuni des gens qui connaissaient, des musiciens, des chanteurs qui connaissaient, pour enregistrer une quinzaine de chansons de cette époque. Et ces chansons, au 19e siècle, en fait, elles étaient transmises dans les écoles par des petits livrets avec les lignes musicales et puis les paroles. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'on racontait aux enfants, à ces enfants, ces premiers écoliers de l'école laïque. On parlait de l'école, évidemment. On parlait du jour des prix, on parlait des bienfaits de l'instruction. Il y a une chanson qui s'appelle « Liberté, égalité, fraternité ». Il y a une chanson qui s'appelle « Le paresseux ». C'est pas bien d'être paresseux.
C'était très moral, alors.
Il y en a une qui s'appelle « L'écolier français ». Et en fait, on s'aperçoit qu'il faut être un bon élève pour devenir un bon citoyen. Et qu'est-ce que c'est qu'un bon citoyen en 1889 ? C'est aller mettre la pâtée aux gars qui sont derrière le Rhin, qui peut-être d'ailleurs pensent la même chose. Et donc là, on va écouter, l'école buissonnière. L'école buissonnière, qui, vous allez voir, est une chanson extrêmement morale. Elle est interprétée par Christiane Auriol. Alors, Christiane Auriol, c'est une dame tout à fait intéressante. Elle est stéphanoise, donc elle habite Saint-Étienne. Et elle s'est beaucoup intéressée aux chansons populaires, au vrai sens du terme, les chansons du peuple. Et entre autres, elle a recueilli des chants de la mine, parce qu'on sait que Saint-Étienne, à une époque, c'était une grande ville minière.
Ouais,
et donc, et ça s'appelait Chants de la mine. Je ne sais pas si c'est encore disponible, si on peut encore le trouver. Et elle a fait d'autres travaux dans ce domaine-là. Et elle a aussi fait beaucoup de choses pour les enfants. Et donc, elle a écrit aussi La Maison Citrouille. Mais là, elle interprète l'école buissonnière.
Une fillette de 8 ans, la petite Nicole, disait toujours, j'ai bien le temps d'arriver à l'école. Et quand en classe elle arrivait, sa maîtresse lui répétait, enfant, si tu m'en crois, ma chère, ne fais pas l'école buissonnière. Mais Nicole n'écoutait pas cet avis salutaire. Elle s'en allait tout là-bas, aimant à ne rien faire, et prenant les chemins les plus longs pour attraper les papillons. Enfant, si tu m'en crois, ma chère, ne fais pas l'école buissonnière. Un jour, voici que tout à coup, loin, bien loin de la classe, Nicole voit venir un loup, elle eut beau crier grâce, le méchant loup, sans se gêner, la mangea pour son déjeuner. Enfant, si tu m'en crois, ma chèvre, ne fais pas l'école buissonnière. La plus affreuse douleur, car rien ne la console, à tout jamais brisa le cœur des parents de Nicole. Il la pleurait soir et matin, ils en moururent de chagrin. Enfant, si tu m'en crois, ma chère, ne fais pas l'école buissonnière.
L'école buissonnière sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître, ni publicité de la Fédération anarchiste. Enfin, c'est pas un conseil qu'elle donne à l'enfant. Ne fais pas l'école buissonnière. C'était une époque où la chanson pour enfants était vraiment très morale, lisatrice, on peut dire.
Alors, Françoise. les chansons scolaires, oui, il y avait un message. Il y avait nettement un message.
Donc, maintenant, alors c'était donc Christiane Auriol.
Christiane Auriol, oui.
Oui, eh ben, je ne la connaissais pas. Je vais en apprendre grâce à toi, Françoise.
Si tu retrouves Chant de la mine, c'est vraiment intéressant. Elle avait recueilli ça auprès des mineurs, puisqu'elle est donc stéphanoise. C'est une personne tout à fait intéressante. Alors, pour la suite, il y a un auteur dont on ne s'attendrait pas à ce qu'il fasse des chansons pour enfants, c'est Théodore Botrel. Théodore Botrel, il est né à Dinan en 1868 et il est mort à Pont-Aven en 1925. Et on le connaît, si on ne sait pas le nom de Théodore Botrel, on connaît quand même la Paimpolaise.
Ah oui.
Paimpolais, sa falaise, son église et son grand pardon. Et ce monsieur d'ailleurs qui se présentait, on a des photos de lui avec un gilet brodé breton, ces merveilleux gilets là brodés très très finement doré. Et en fait, il a passé assez peu de temps en Bretagne puisqu'il est arrivé à l'âge de 7 ans à Paris. Il a quand même trouvé le moyen d'aller mourir à Pont-Aven, mais en fait, c'était un monsieur qui fréquentait beaucoup les salons. Et ce monsieur, en 1901, il rencontre une illustratrice qui s'appelle Madeleine Jacquier, qui n'est pas connue.
Non.
Mais en fait, il se dit, tiens, ça serait bien de faire, pour le Noël suivant, un album de chansons pour les enfants. Et donc, il y a des titres traditionnels dans cet album. On trouve notamment Le Petit Navire, mais on trouve aussi un certain nombre de titres signés Botrel. Donc, on va retrouver La Paimpolaise. On va retrouver une chanson qui s'appelle « Le grand Lustucru ». C'est le grand Lustucru qui passe et puis qui mange tous les petits enfants qui ne dorment pas, tous les petits gars qui ne dorment pas. Déjà encore, ça, ça fait un peu peur, ça.
C'est pas très sympathique.
Non,
oui.
c'est pas toujours très sympathique. Et puis, il y a une chanson qui s'appelle « Le petit Grégoire ». Le refrain du petit Grégoire, c'est « Il est trop petit, mon ami ». Il est trop petit, dame, oui. Le petit Grégoire, il est trop petit pour aller à l'école, il est trop petit pour faire les moissons, il est trop petit pour se marier, il est trop petit pour plein de trucs, mais il n'est pas trop petit pour aller faire de la chair à canon et aller combattre celui qui est en face. On retombe sur le même thème qu'on a dans les chansons des collaïques. Et par ailleurs, il y a des chansons beaucoup plus légères, comme par exemple La Ronde des Châtaignes. Et celui qu'on va écouter qui s'appelle Par le Petit Doigt. Alors, je voudrais dire un mot sur Le Petit Doigt. Ma mère est née en 1904 et ma mère est orpheline. Elle a été élevée, par un orphelinat où c'était des bonnes sœurs de la haute société. Et donc, ces dames, elles connaissaient Théodore Botrel. Et moi, ma mère, elle m'a chanté quand j'étais enfant Par le Petit Doigt. Donc c'est assez amusant. Alors je veux dire aussi que cette chanson qu'on va écouter, c'est une interprétation moderne. Elle a été interprétée par un groupe qui s'appelle Sortie d'artistes. Et donc c'est tiré d'un livre disque qui a été édité chez Fortin, me semble-t-il en 2002 ou 2012. Et c'est un reprint de l'édition originale, c'est-à-dire qu'on a les illustrations, les aquarelles de Madeleine Jacquier, on a les lignes mélodiques des chansons et on a les paroles. Et c'est d'ailleurs un très 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 joli livre. Mais on va écouter Par le Petit Doigt.
Alors, Par le Petit Doigt de Théodore Botrel, c'est donc... Vas-y.
Entendez-vous dans la plaine ce bruit venant jusqu'à nous? On dirait un bruit de chaîne se traînant sur les cailloux. C'est le grand Lustucru qui passe, qui repasse et s'en ira. dans sa besace tous les petits gars qui ne dorment pas. Long, long, la, long, long, la, long, long, la, lire la, long, la. Quelle est cette voix démente qui traverse nos volets? Non, ce n'est pas la tourmente qui joue avec les galets. C'est le grand Lustucru qui gronde, qui gronde et bientôt rira. En ramassant à la ronde tous les petits gars qui ne dorment pas. Long, long, la, long, long, la, long, long, la, lire la, long, la. Dis donc, j'ai mis de la sorte dans l'enclos tout près d'ici. Faudra-t-il donc que je sorte pour voir qui soupire ainsi? C'est le grand Lustucru qui pleure, il a faim et mangera. Cru tout vif, sans pain ni beurre, tous les petits gars qui ne dorment pas. Long, long, la, long, long, la, long, long, la, lire la, long, la. Qui voulez-vous que je mette dans le sac au vilain vieux? Mon Doric et ma Jeannette viennent de fermer les yeux. Allez-vous-en, méchant homme, quérir ailleurs vos repas. Puisqu'ils font leur petite somme, non, vous n'aurez pas mes deux petits gars. Long, long, la, long, long, la, long, long, la, lire la, long, la.
Alors en fait, la plage 3, c'était le petit Lustucru.
Ah, c'est Grand Lustucru. Bah, le Grand Lustucru, on a une idée aussi des chansons pas un petit peu effrayantes qu'on chantait aux enfants. Alors, Par le petit doigt, c'est une... Par le petit doigt, quand je revenais de classe, par le long des grands chemins, on revenait, je te tenais la main. Et en fait, c'est toute une vie. Ce sont deux enfants qui vont s'aimer, qui vont se marier, qui vont avoir des enfants et qui vont vieillir ensemble. C'est l'histoire d'une vie. Mais tant pis, c'est pas grave, on s'est trompé. Pour la suite, donc je revérifie les chansons des Petits Bretons, donc dont est issue donc ces chansons, a été publiée par Fortin en 2002. Et puis on va passer, on va sauter aux années 20-30. Et dans les années 20-30, il y a des chansons qui sont extrêmement, extrêmement populaires. Ce sont les chansons de Bob et Bobette qui ont été publiées en 1929. Ce sont des chansons qui ont été écrites par René-Pierre ou René-Paul Groff pour les paroles et Marius Zimmermann pour la musique. Alors, Groff, c'est un personnage tout à fait intéressant parce qu'au début, il a travaillé dans la métallurgie, il était ajusteur. Et en fait, il a fini par être chansonnier, il a débuté un peu avant la guerre de 14 et il a participé aux soirées de la chanson du peuple. Et il est devenu chansonnier professionnel après la guerre. Et il interprétait ses œuvres en fait dans des cabarets montmartrois, comme La Muse Rouge, La Lune Rousse. C'est un monsieur qui a fait des satires politiques, puisque au début de 1923, il a créé une chanson qui s'appelait Lettre à Mussolini, où il dénonçait le fascisme naissant. Donc c'est un personnage tout à fait engagé. En 1923 ?
Non, c'est trop tôt.
C'était trop tôt, mais lui, il avait bien senti le vent. Hein. Et en fait, il va être surtout connu, il fait des émissions de radio aussi, mais il est surtout connu pour les chansons de Bob et Bobette, qui sont des chansons pour enfants. Hors de cet engagement qu'il a dans la vie et dans sa carrière adulte, eh bien, on ne sent rien de cela dans Bob et Bobette, puisqu'on a des choses tout à fait mignonnes. Il était de petits champignons, mignons, mignons, mignons. Une ronde des petits lapins, l'horloge de grand-mère, le nain Rikiki. On est dans des thèmes enfantins, tout à fait anodins. Et une des chansons les plus connues des chansons de Bobby et Bobette, c'est Le Petit Train, Le Petit Chemin de Fer, dont la musique donc a été écrite par Marius Zimmermann. Marius Zimmermann, qui a écrit la musique de la chanson L'Entrecôte, qui a été immortalisée par les frères Jacques, pour mémoire. Voilà, donc là, c'est Le Petit Train qu'on va écouter. Il a été interprété par un monsieur et une dame, Suzanne Ferroux et Jean Sorbier, qu'on a, à mon avis, un petit peu oublié, peu oublié aujourd'hui. Il y avait d'autres interprétations, dont une qui avait été faite par Philippe Duquesne, des Deschiens, et Hélène Delaveau.
La cantatrice
Hélène Delaveau,
qui a fait la Carmen de Peter Brook.
Voilà, absolument. Ouais. Et ça avait été édité aux éditions des Braques sous le titre Tout ce que les enfants ne comprendront pas. Et c'était une chose assez intéressante qui est malheureusement plus éditée. Il y a eu d'autres versions, entre autres par James Olivier chez Arc-en-Ciel SM dans les années 70.
Alors, j'ai une question. On considérait que les enfants n'étaient pas aptes à comprendre les problèmes importants de société.
En tout cas, pendant les chansons. Mais ce qui est intéressant avec la chanson enfant, c'est qu'elle est vraiment le reflet de la société aussi, ou de la façon dont la société considère les enfants.
Voilà,
c'est très intéressant à ce niveau-là, parce que ce qu'on raconte aux enfants a beaucoup évolué au fil des années, enfin des années, même des siècles. Et il y aurait on pourrait même faire une émission là-dessus, parce que vraiment, c'est très, très, très intéressant. Et voir que certaines chansons, à une époque, ont fait scandale parce qu'il y avait des choses dont on ne parlait pas aux enfants.
Alors là, ce n'est pas le cas, c'est Le Petit Chemin de Fer.
Le Petit Chemin de Fer.
Si je ne me trompe pas.
Sur les fils télégraphiques se sont perchés les oiseaux, et les vaches mélancoliques bouchent les passages à niveau pour guetter dans le lointain le panache du premier train.
Voilà qu'il arrive avec sa locomotive, on entend fort bien le voilà qui vient.
La gare est toute flambante de drapeaux et de lampions. Une foule impatiente attend l'inauguration.
C'est pourquoi, monsieur le maire, la fanfare et les pompiers, accompagnés de la rosière, depuis ce matin sont sur pied. Comme il est midi moins le quart, ça ne fait jamais 3 heures de retard.
Voilà qu'il arrive avec sa locomotive. On l'entend fort bien, le voilà qui vient.
Qu'un bel homme d'équipe en uniforme coquet, murmurant, fumant sa pipe tranquillement au bout du quai. Si le train n'est pas ici, c'est peut-être qu'il n'est pas parti.
Voilà qu'il arrive avec sa locomotive. On l'entend fort bien, le voilà qui vient.
Les jours et les nuits passèrent, mais ce qui ne passe à passer le train, car on a chose singulière, pas trouvé de mécanicien.
Les gens du pays de Cocagne sont tellement bien chez eux, qu'ils se font une montagne d'un voyage aventureux. Pourquoi donc prendre le train quand on a le bonheur sous la main?
Tant pis qu'il arrive avec sa locomotive, nous prendrons plaisir à le voir partir.
Époque où on roulait les airs dans la chanson, pas seulement dans l'opéra, c'est vraiment très ancien. C'était Le Petit Chemin de Fer, les chansons de Bob et Bobette sur Radio Libertaire 89.4. grâce à Françoise Tenier qui nous fait l'historique de la chanson pour enfants et qui le fera pendant plusieurs émissions parce que c'est très riche. Françoise, à toi.
Alors oui, c'est intéressant, oui, ces voix au perché qui sont très opérettes. Et on va retrouver ça aussi dans les chansons adaptées des films de Walt Disney. On va trouver exactement la même chose. De toute façon, il y a cette ambiance opérette qui est tout à fait prégnante. Et là, on va écouter « Un jour, mon prince viendra ». Non, je ne l'ai pas mis.
Siffler en travaillant.
Siffler en travaillant. Siffler en travaillant.
Tu veux qu'on le mette tout de suite ?
On va le mettre tout de suite, oui.
Alors, Siffler en travaillant, c'est le premier CD.
Dans Walt Disney, c'est vraiment c'est une époque, quoi. C'est aussi des voix très haut perchées. C'est vraiment le style d'une époque. Ça passerait plus du tout maintenant.
Vous excède si votre ardeur devient tiède, gaiement allez-y d'un petit air. Quand votre esprit est morose, chantez, fait voir tout en rose, car la musique adoucit les nerfs.
À la tâche quand ça fait plus votre emprunt, reprenez courage en attaquant ce refrain.
Sifflez en travaillant, c'est un bon stimulant qui vous rend le cœur plus vaillant.
Sifflez un air joyeux, vous vous sentirez mieux, vous serez bien plus courageux.
Chassez les soucis, détraquez les ennuis et voir tout sous un jour brillant.
Suivez ce remède excellent.
Sifflez en travaillant.
Pour vivre heureux, toujours content, sifflez en travaillant.
Alors là, on n'a pas de voix perchée comme on a dans Un jour mon prince viendra. Là, c'est, Ray Ventura et ses collégiens qui ont interprété pas mal de chansons, des films de Disney. Alors là, on voit quand même que c'est plus léger, comme on n'est plus dans Le Grand Livre Sucré qui fait peur, ou on n'est plus dans Il faut devenir un bon citoyen pour aller zigouiller les Allemands de l'autre côté de la frontière. Là, on est dans des choses beaucoup plus festives. Hein, siffler en travaillant, c'est ce que chantent les petits nains de Blanche-Neige, en fait. Voilà.
C'est très jazz.
Et c'est très jazz, oui, et c'est très jazz. C'est ça qui est intéressant au niveau musique, parce qu'il faut aussi, là aussi, c'est intéressant de voir quel type de musique on impose aux enfants. Parce qu'il ne faut pas leur parler de choses qui dérangent, mais il ne faut pas que les musiques, elles dérangent non plus. Et ça, on va voir ça tout au long des années 60-70, avec une petite révolution qui aura lieu avec la collection Chevance. Alors, dans les années 60, on est toujours, pour continuer dans cet esprit opérette, cet esprit comédie musicale, on a Colargol. Alors, l'ours Colargol, certains d'entre nous le connaissent, parce qu'il a fait l'objet, à partir des années 70, d'une série télévisée. Mais en fait, il a été créé dans les années 50 par une dame qui s'appelle Olga Pouchine. Et c'était une petite opérette pour enfants avec des chansons de Mireille. Et donc l'ours Colargol est un petit ours qui s'est échappé d'un cirque à qui il va arriver des tas d'aventures. Et c'est l'ancêtre de la comédie musicale. Là, on va écouter juste le début de Colargol et le roi des oiseaux. Il y a un peu de choses parlées au début et après, on va entendre la célèbre chanson.
un grand jour pour le cirque Pimoulu.
Et voici maintenant le petit ours qui a reçu un sifflet du roi des oiseaux. Le premier et le seul qui ait quitté sa famille et sa forêt pour venir chanter devant vous. Voici Colargol dans son répertoire.
C'est moi qui suis Colargol, l'ours qui chante en fa en sol, en do dièse, en mi bémol, en gilet et en faux-col. Le roi des oiseaux, vous le savez mes amis, m'a donné un beau sifflet pour faire cui-cui-cui-cui-cui-cui-cui. Cui. C'est moi qui suis Colargol, l'ours qui chante en fa en sol, en do dièse, en mi bémol, c'est moi qui suis Colargol. C'est moi qui suis Colargol, je chante sans protocole, mieux que Jacques, Pierre ou Paul, en russe et en espagnol. Le roi des oiseaux est un merveilleux ami, grâce à son cadeau, vous m'entendez aujourd'hui, dui, 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 dui. C'est moi qui suis Colargol, mauvais élève à l'école, mes premiers au music hall, c'est moi qui suis Colargol.
Colargol va avoir de nombreuses aventures. Colargol et le roi des oiseaux, Colargol chanteur de cire, Colargol moussaillon, Colargol au pôle Nord et beaucoup d'autres. Et pour l'interpréter, on a des gens connus, des acteurs connus de l'époque, comme par exemple Henri Virlogeux, Georges Aminel, Madeleine Barbulé, Christian Allers, qui interprètent le rôle de Colargol. Ce qui est intéressant avec Colargol, c'est que donc on est dans l'opérette, ce qu'on appelle maintenant la comédie musicale. Et la comédie musicale qui prend ses lettres de noblesse en 1979 avec Émilie Joly, c'est un genre qui est tout à fait présent dans la chanson pour enfants. Mais ça, c'est une histoire qui est plus tard. Dans les années 60. C'est là où arrivent les pionniers de la chanson, de la chanson pour enfants d'aujourd'hui. Alors, les éditeurs de l'époque s'appellent principalement Unidisc, Arc-en-Ciel SM, Philips. Et l'une des premières personnes à faire des chansons à destination des enfants, c'est un certain Jacques Douai. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, Jacques Douai.
Ah oui, Jacques Douai, oui.
Alors Jacques Douai, il faisait de la chanson traditionnelle ou qui ressemblait à de la chanson traditionnelle. Un de ses tubes, c'était « File la laine ». Et Jacques Douai s'est intéressé à la poésie. Et en fait, il s'est aperçu que pour les enfants, tous les poètes étaient morts. Alors, tous les poètes ne sont pas morts. Et donc il a repris des textes de poètes qui étaient vivants à l'époque, comme par exemple Luc Bérémont. Et il a fait toute une série de 45 tours qui a en fait très bien marché. Alors, je n'ai pas trouvé Jacques Douai. Par ailleurs, c'est un peu... disons que c'est un peu difficilement écoutable maintenant parce qu'il a une voix de ténor un peu tremblotante qui n'est pas forcément terriblement agréable à entendre. Cela dit, il a ouvert quelque chose dans la chanson pour enfants qui est la poésie chantée. Parce que c'est quelque chose qui va être reprise ensuite par beaucoup d'autres chanteurs. Je pense à James Olivier, je pense à Claude Fonfrède, je pense à Max Rongier. Il y a beaucoup de chanteurs qui ont repris ensuite ce thème de la poésie chantée avec des poètes qui ne sont pas morts, car tous les poètes, donc, je répète, ne sont pas morts. Et puis, dans ces années 62, il y a une dame qui arrive, et c'est une certaine Anne Sylvestre. Parce que les premières fabulettes datent de 1962. Alors, Anne Sylvestre, à l'époque, Anne Sylvestre, qui quand même, me semble-t-il, reste l'une des plus connues des auteurs, compositeurs, interprètes de chansons pour enfants, était connue à l'époque, non pas pour ses chansons enfants, mais c'est une chanteuse engagée et féministe. Et féministe, c'est pas très bien vu à l'époque, ça se fait pas beaucoup. Hein. Elle se fait un petit peu remarquer, Anne Sylvestre. Et en fait, Anne Sylvestre se fait connaître par la radio dès 1957. Elle a une petite fille qui a du mal à manger, et pour la faire manger, eh ben, elle lui écrit des chansons. Et c'est comme ça qu'elle va écrire « Hérisson, sonson, veux-tu monter dans mon bateau ?» et quelques autres que maintenant tout le monde plus ou moins connaît, qui sont très, très chantées dans les écoles.
Et ça s'appelait « Chansons pour » les premières.
Ah non, les premières c'était les Fabulettes.
C'était les Fabulettes.
Ah oui, les premières 62, les Fabulettes.
Parce que chansons
les chansons pour,
se
sont venues après.
Ah d'accord.
On va en parler. Les chansons pour sont venues après. Et ensuite, effectivement, elle va faire les chansons pour. On va d'ailleurs en écouter une tout à l'heure. Bon, on peut l'écouter maintenant, d'ailleurs, cette chanson pour.
Eh bien, bah, si tu veux, on y va.
Et la chanson pour se réveiller.
Mon œil droit, ouvre-toi, le gauche ne bouge pas. Un peu de soleil glisse sur le lit. J'ouvre mes oreilles et j'entends du bruit. Les autos ronronnent, les horloges sonnent. Les grands se lavent les pieds, les mamans font du café. Les papas s'habillent, mais que font les filles? Elles apprennent leurs leçons pour étonner les garçons qui dans les cuisines mangent leurs tartines. Tout le monde est éveillé et je vais pouvoir bouger. Mon œil gauche, ouvre-toi, le droit ne te ferme pas. Un peu de soleil glisse sur le lit. Debout mes orteils, je vais faire du bruit.
Anne Sylvestre pour les enfants sur Radio Libertaire. Eh bien, c'est normal, Anne Sylvestre sur Radio Libertaire. À toi, Françoise, l'histoire de la chanson pour enfants.
Alors, bah, ces chansons pour vont être chansons pour aller dormir chez, chansons pour lasser ses souliers. Enfin, il y a toute une série de tâches très finalement très difficiles pour les enfants. Et elle va accompagner les enfants dans ces tâches difficiles. Alors, ce qui est intéressant chez Anne Sylvestre, c'est ce qu'elle raconte. Parce que là, elle dit « je » à la place des enfants. Et c'est peut-être la première fois qu'un auteur, compositeur, interprète qui fait de la chanson pour enfants dit « je » à la place d'un enfant. Après, ça va être beaucoup, beaucoup repris et pas toujours de façon très judicieuse. Mais là, c'était vraiment, vraiment judicieux. Alors, après ces chansons pour et les fabulettes, elle va écrire d'autres fabulettes, mais sous forme d'albums thématiques. Et ça va être à la demande de nombreux instituteurs qui avaient adoré les premières fabulettes et les chansons pour. Et donc, c'est comme ça qu'on aura les fabulettes en couleur, les fabulettes marines, les fabulettes aux oiseaux, les fabulettes à tourner, qui, à mon avis, est l'un des plus beaux disques pour enfants d'Anne Sylvestre, les fabulettes à manger, les fabulettes à lunettes, les chansons pour tous les temps, la rue, l'école, le soir. En fait, toutes ces chansons n'ont jamais cessé d'être rééditées et chantées par les enfants. Elle a aussi inventé un personnage, qui est le personnage de la petite Josette. C'est la petite Josette qui n'en fait qu'à sa tête. Et elle, c'est aussi une très bonne conteuse, Anne Sylvestre. Et on se souvient aussi de cette petite Josette avec sa petite robe Vichy et ses nattes. Et ce qui est intéressant chez Anne Sylvestre, c'est qu'à une époque où les disques sont... Allez, les pochettes de dire, on va dire qu'elles sont moches. Enfin, on s'en fout de l'habillage des disques pour enfants. C'est pas terrible. Et Anne Sylvestre va faire appel à un jeune illustrateur, absolument inconnu à l'époque, qui s'appelle Pef.
Ah oui,
et oui, fait. Et qui n'est pas du tout connu. Et qui illustrera, je crois que pratiquement tous ses albums jusqu'au dernier album pour enfants. Alors, pourquoi c'est bien Anne Sylvestre ? Eh bien, Anne Sylvestre, c'est bien parce que ça parle aux enfants d'eux-mêmes. Ça ne parle pas de référence. On n'est pas obligé d'avoir une référence. Par exemple, les chansons de Chantal Goya, c'est Bécassine, c'est ma cousine. Tous les mômes ne connaissent pas Bécassine. Tout le monde n'a pas les mêmes références littéraire, je dirais. Là, c'est la référence, c'est la vie quotidienne. Et cette référence-là, tout le monde, elle l'a. Donc, elle s'adresse vraiment à tout le monde. Ce qui est bien aussi, c'est qu'elle a un vocabulaire qui est assez riche, mais qu'on comprend très bien. C'est des paroles extrêmement intéressantes et ciselées. Et donc Anne Sylvestre, je ne sais pas si c'est encore beaucoup chanté, peut-être moins maintenant, si c'est toujours aussi aimé par les enfants. En tout cas, c'est vraiment une grande dame de la chanson pour enfants et une grande dame de la chanson tout court. Alors, une chose qui était intéressante, c'est que par contre, elle a toujours refusé de chanter devant les enfants. Elle avait fait des émissions à la télévision. Mais elle a toujours refusé de chanter devant les enfants et elle a confié cette tâche à d'autres interprètes, entre autres une chanteuse d'origine allemande qui s'appelait Marenberg, qui avait chanté ses chansons dans un disque qui s'appelait Le Secret d'Anatole. Il y a eu Christine Costa aussi qui a chanté les chansons d'Anne Sylvestre. Et plus récemment, il y a un chanteur qui s'appelle Jacques Oronier qui avait fait des spectacles avec les chansons d'Anne Sylvestre. Et d'ailleurs, on va écouter Doudou perdu. On va écouter Doudou perdu. Alors, Doudou perdu, c'est une histoire terrible. Hein, parce que perdre son doudou, quand même, c'est terrible, terrible. C'est un grand drame.
Il était rose, il est tout noir. Les pattes en l'air sur le trottoir. L'air tellement abandonné. Pleurerait s'il pouvait pleurer. Qu'il soit tombé d'une poussette ou d'une voiture à l'arrêt. On le regarde et on regrette de ne pouvoir le rapporter. Mais d'où viens-tu, pauvre doudou? Perdu, quel est celui qui, tout à l'heure, verra que tu as disparu? Quel est le bébé qui te pleure, doudou perdu? Il est usé par les bisous, des guenilles remplies de trop. Oh, on lui a remplacé un œil. Est-ce un chien ou un écureuil ou un lapin? Quelle importance! Il est aimé et on le perd. On le réclame. On est en transe et la vie n'est plus qu'un désert. Mais d'où viens-tu, pauvre doudou, doudou perdu? Quel est celui qui, tout à l'heure, verra que tu as disparu? Quel est le bébé qui te pleure, doudou perdu? Mais si par bonheur on repasse, qu'on le retrouve à la même place, on se console, on s'émerveille, puis on l'attrape par l'oreille pour le passer à la machine. Il lui faudra quelque temps pour retrouver son odeur divine de câlins, de larmes et d'amour. Mais d'où viens-tu, pauvre doudou, doudou perdu? Quel est celui qui, tout à l'heure, verra que tu as disparu? Quel est le bébé qui te pleure, doudou perdu? Mais d'où viens-tu, pauvre doudou, doudou perdu? Quel est celui qui, tout à l'heure, verra que tu as disparu? Quel est le bébé qui te pleure?
Ça n'a pas tellement vieilli, je trouve, cette chanson-là. Elle passe encore très bien.
Alors, elle passe bien parce que les chansons d'Anne Sylvestre, ça passe bien. Ce qui a vieilli chez Anne Sylvestre, enfin, ce sont les arrangements. Elle a travaillé pratiquement toute sa vie avec François Robert, ce qui était de qualité, mais ça, c'est un petit peu daté. Et alors, l'intérêt de l'enregistrement avec Orognier, c'est qu'Orognier a repris les chansons avec d'autres arrangements. Et ça leur donne un petit coup de jeune qui est tout à fait intéressant.
D'accord. On a oublié de passer l'abécédaire tout à l'heure. Est-ce que tu peux en parler?
Oui, alors l'abécédaire en 26 chansons de Boris Vian. Alors Boris Vian, on connaît Boris Vian, hein, qui est un touche-à-tout et qui un jour s'est amusé à faire un abécédaire en chansons. Je ne sais plus s'il interprétait lui-même ou pas. En tout cas, il y a une édition, c'était fin des années 50. Et c'est extrêmement drôle parce que ça joue sur les jeux de mots. Et là, on n'est pas du tout dans la chanson qui veut imposer quelque chose aux enfants, justement sur le contenu. On est dans le ludique total. Et c'est une série donc de chansons qui a été reprise par le groupe Debout sur le Zing. Et là, on va écouter Berthe.
Oh non !
Comme Berthe alors ?
Berthe met ses bas et son bonnet brodé, se balade au bal pour danser la bourrée. Berthe est belle et blonde, elle aime le beau Bastien qui a des bottes, bottes, bottes et qui bondit si bien.
Yéhouhouhouhou !
C'est tout.
C'était vraiment très court.
Mais c'est tout très rigolo.
Oui, Debout sur le Zinc, il se présente encore. Moi, je les ai vus sur le scène. Sur scène, dans la chanson pour adultes.
Ils font de la chanson adulte, mais là, ils ont fait ça qui est très rigolo. Alors, j'avais offert ce disque à une petite fille qui s'appelle Zoé. Elle m'a dit, mais comment ils savent que je m'appelle Zoé?
Alors, écoute maintenant, je te propose non pas une pause musicale, mais une pause histoire.
Ah, très bien, j'adore les histoires.
Alors, parce que là, tu as parlé des années, tu as fait quand même une grande... tu as commencé par les années au début du XXe siècle, et là, c'était quelles années
C'est Jacques Douai, années 60, Anne Sylvestre, on a commencé dans les années... En 62, en fait. On est encore dans les années 62. Anne Sylvestre, c'est jusque... Jusqu'à sa mort, qui est récente. Hein.
Alors, je te propose une histoire qui est assez ancienne, qui a été rééditée en 2026. Mais est-ce que tu te souviens de Kay Fender et de Philippe Dumas, l'illustrateur?
Absolument.
Eh bien, Odette, est-ce que tu te souviens de l'album Odette?
Un printemps à Paris.
Ah ben voilà, tu as une culture absolument...
J'étais bibliothécaire enfant quand même.
Oui, voilà, tu me stupéfies.
Et c'était édité par l'École des loisirs, qui était quand même le nec plus ultra des albums de l'époque. Hein.
Oui, c'est vrai. Et donc, c'est un nouveau très bel album qui vaut 17 euros, mais c'est vraiment superbe. Et qui a été prêté par le Salon du Livre, c'est 1978. Eh bien, nous allons la lire à deux avec un enfant. Odette, un printemps à Paris, donc de Kay Fender, illustré par Philippe Dumas. Et il y a la première affiche, c'est Défense d'afficher, loi du 18 juillet 1881. Je ne sais pas si ce n'est pas toujours encore d'actualité.
Je ne sais pas s'il y en a encore sur les murs.
Et en souvenir du... Enfin, il y a des enfants qui écrivent partout sur cette défense d'afficher, bien sûr. Et nous sommes... Alors, je vais lire la préface. Paris, printemps 1870. Kay Fender et Philippe Dumas bricolent dans l'atelier. Ils construisent une mezzanine avec des câbles et des planches. Il s'agit de gagner de la place. Leur fille, Alice, a 6 mois. Kay descend de son escabeau pour écrire une histoire d'oiseaux et de musiciens qu'elle vient d'imaginer. Le manuscrit est rangé dans un tiroir, puis illustré par Philippe au crayon de couleur, puis remis dans un tiroir. Certes, Le sujet n'est guère à la mode. Un vieux monsieur ? Oh, l'époque veut de la jeunesse. Un oiseau ? L'époque veut de l'humain. L'amitié ? Ah, l'époque veut de l'amour libre. La mort ? L'époque veut de la vie. Quand ils le montrent à leur ami Arthur Schmidt, jeune éditeur à l'école des loisirs, celui-ci refuse ce livre, entre guillemets, révolutionnaire. L'éditeur explique que la première publication de Philippe doit être un livre d'aventure dont les enfants tourneront les pages. Ce sera la série Laura. 3 ans après, lors d'un séjour prolongé en Angleterre, Philippe reprend ses dessins et peint les belles aquarelles que nous découvrons dans ce livre. Une éditrice londonienne de chez Golangs aime le livre et le publie, non sans exiger quelques changements de format d'illustration. En 1978, Odette paraît enfin en France. Le voici un demi-siècle plus tard, restauré dans son format original. Aujourd'hui, le métro a changé et on n'y voit plus de vieux monsieur qui joue de l'accordéon. Quoique... Mais les oiseaux migrent toujours et continuent de pondre des œufs. C'est une certaine Sophie Chéré qui a écrit ça. Alors, je vais commencer la lecture chacun notre tour. Il était une fois, dans le jardin des Tuileries, un arbre qui venait d'avoir à nouveau, comme chaque printemps, beaucoup de jolies petites feuilles vertes.
En haut de l'arbre vivaient deux jeunes mariés qui y avaient construit leur nid. Le papa oiseau était très amoureux de la maman oiseau. Aussi avait-elle pondu beaucoup d'œufs, peut-être même un peu trop.
Ne voilà-t-il pas qu'un matin, le plus jeune oisillon est poussé hors du nid. Et il est tombé
sur le chapeau d'un vieux monsieur qui s'apprêtait tout juste à descendre l'escalier du métro. Le petit oiseau en est resté tout étourdi, agrippé de son mieux. Il avait peur.
Le vieux monsieur s'est enfoncé dans le couloir. Au milieu du couloir, il s'est assis et il a commencé à faire de la musique sur son accordéon. Le petit oiseau n'osait pas signaler sa présence.
Mais pour finir, comme le vieux monsieur avait l'air gentil, il s'est décidé à l'appeler au secours. « Pauvre petit oiseau, » a dit le vieux monsieur, « il faut que je te ramène chez toi, car ta maman doit s'inquiéter. » Mais nulle part, il n'y avait de nid dans ce couloir de métro.
« Vraiment, je ne comprends pas d'où tu as pu tomber, » a dit le vieux monsieur. Finalement, il a amené le petit oiseau chez lui.
Le matin, il était bien décidé à le garder avec lui et à remplacer désormais son papa et sa maman. Il lui a d'abord donné un nom, Odette. Puis, il lui a donné un solide petit déjeuner.
Sur quoi, ça a été le moment du départ pour le travail. Odette a fondu en larmes. « Je veux aller avec toi !» Odette était drôlement contente de se faire voir dans la rue en compagnie d'un vieux monsieur si élégant.
Et le vieux monsieur, que les années avaient rendu un peu amer et dédaigneux, reprit goût à la vie. Ce printemps fut le meilleur qu'il ait connu. Depuis longtemps, il était fier de ses responsabilités vis-à-vis d'un petit oiseau si gracieux et turbulent. Et Odette voltait sur sa barbe avec reconnaissance.
Tout le monde regardait maintenant d'un air admiratif ce vieux bonhomme qu'on avait pourtant vu depuis des années posté à cette même place dans le couloir du métro. Les attroupements prenaient énormément de plaisir au concert donné par les deux musiciens.
Odette suivait partout le vieux monsieur. Elle était parfois un peu coquine et venait manger dans son assiette, bien qu'il lui ait 100 fois dit non. « Odette, voyons, cela ne se fait pas. »
Le dimanche, le vieux monsieur et le petit oiseau passaient de longues heures dans le jardin des Tuileries. Odette s'envolait si haut par-dessus les arbres que le vieux monsieur ne la voyait même plus. Un soir, au début de l'automne, elle fit la connaissance en plein ciel d'un oiseau tout à fait sympathique, tout à fait bien élevé.
Elle a parlé au vieux monsieur. Tous les autres oiseaux s'en vont en vacances en Afrique. Ils veulent que j'y aille avec eux. Qu'en penses-tu, vieux monsieur ?
Ah, le vieux monsieur a dit, s'ils partent tous, si tous tes cousins et tes frères s'en vont vers le soleil, c'est sans doute parce qu'ils le doivent. Alors toi aussi, ici à Paris, tu prendrais froid. À la Sainte-Alice, les oiseaux se sont rassemblés et ils ont pris leur envol. Il y en avait tant et tant que parmi eux, le vieux monsieur n'arrivait plus à voir Odette.
Ce jour-là, il est allé déjeuner tout seul au restaurant. L'hiver fut très froid. Le vieux monsieur écrivit une lettre à Odette, puis pour lui dire combien il se réjouissait qu'elle se trouve au soleil. « Car ici, c'est assez dur, » disait-il. Mais il n'envoyait pas la lettre, car il se souvint qu'il ne lui avait pas appris à lire.
Au printemps, Odette s'est dépêchée de revenir, impatiente de voir le vieux monsieur et de lui présenter son mari.
Mais à la station de métro, personne. Le vieux monsieur n'était pas là, plus là. Il était parti, ne laissant que son vieux chapeau en haut de l'arbre. Odette a compris qu'elle ne le reverrait plus. Mais aujourd'hui, en souvenir du vieux monsieur, si aimable, les oiseaux font leur nid dans chaque chapeau qu'ils trouvent.
Et voilà, c'est fini. C'était Odette, un printemps à Paris, de Kay Fender et Philippe Dumas.
Et je me rends compte que j'ai oublié un passage du livre, ici.
Ah oui, où il a passé sa première nuit à se faire du mauvais sang pour son jeune protégé. Est-ce qu'il dort bien ? Est-ce qu'il n'a pas froid ? C'est le vieux monsieur qui a hébergé le petit oiseau dans sa chambre. C'est d'une tendresse et d'une beauté. Les illustrations sont à l'avenant. Tu te souvenais
Ah oui, c'était, moi j'adorais cet album. J'ai dû le lire à mon fils.
Bon, eh bien, puisque nous parlons d'oiseaux, on va faire le passage à tes histoires de chansons avec les tourterelles de Steve Waring.
CD 1.
Tourterelle, tourtereau, tu dors la tête dans les ailes. Tourterelle, tourtereau, tourterelle, tourterelle, tourtereau, t'as collier mes pattes bretelles. Tourterelle, tourtereau, tourterelle, quand tu hoches la tête, t'es belle. Tourterelle, tourtereau, quand tu hoches la tête, t'es belle. Tourterelle, tourtereau, tourterelle, quand tu ris du bas des ailes. Tourterelle, tourtereau, quand tu ris du bas des ailes. Tourterelle, tourtereau, tourterelle, tourtereau.
Alors Steve Waring, c'est un monument dans la chanson d'auteur pour enfants. C'est quelqu'un de tout à fait atypique, extraordinaire, qui vieillit pas. C'est un personnage intéressant puisqu'il va marquer le passage des années 60 aux années 70, qui sont les belles années de la chanson d'auteur pour enfants. Alors, Waring Il est américain. Et il est arrivé en France en 1965. Il avait 22 ans. Et avant d'arriver en France, il avait fait un petit passage par l'Afrique, d'où il a ramené un instrument qu'il aime beaucoup et qu'il va beaucoup utiliser dans ses chansons, c'est le balafon. Et il va entrer aux éditions Le Chant du Monde. Et c'est un guitariste qui est pétri de musique traditionnelle américaine. Et d'ailleurs, il publie 3 disques parus dans la collection spéciale instrumentale au Chant du Monde. Mais dès son premier 33 tours de chansons, qui est paru en 1967, dans la collection Le Nouveau Chansonnier International, les enfants vont tout de suite s'approprier plusieurs chansons. Alors, il s'agit de Tom Banjo, Le Matou revient, le jour suivant. Le Matou revient, il est toujours vivant. Et puis surtout, Les Grenouilles, qui est un succès que le chanteur ne cessera jamais de réinterpréter. Alors au début des années 80, il va rentrer dans la collection d'avant-garde Chevance, dont on va parler tout à l'heure, avec Les Grenouilles, La Baleine Bleue, Petit Bleu, Petit Jaune, mais aussi avec un disque aussi rare que singulier qui s'appelle Mirobolis, ainsi que La Nuit adore le jour. Et beaucoup de grands illustrateurs ont illustré ses pochettes de disques. Il n'oublie pas ses origines américaines parce qu'il va signer avec Ma Vieille Bagnole ses premières adaptations françaises des chansons de Woody Guthrie pour les enfants, qui ont été rééditées sous le titre Les Vacances de Woody. Alors, Waring, il se définit lui-même comme un ricain lyonnais parce qu'il a rencontré une lyonnaise et puis il s'est marié à Lyon, il a eu des enfants à Lyon. Il a eu 2 enfants, une fille qui s'appelle Alice et qui continue la tradition de chanteuse et de musicienne, et un fils Arthur qui est musicien. Et à Lyon, il va rencontrer René Maillou avec qui il va interpréter La Baleine Bleue, ainsi que Petit Bleu, Petit Jaune.
Alors, je peux t'interrompre, Petit Bleu, Petit Jaune, c'est à mon souvenir, mais j'ai peut-être zappé beaucoup de choses. La première chanson qui est en lien avec un livre, Petit Bleu.
Absolument, oui.
Ça ne s'est jamais fait avant.
Je ne sais pas, en tout cas, c'était vraiment...
De
le livre était lui-même particulier, enfin, Petit Bleu, Petit Jaune.
De Léo Lioni, c'est lui.
C'était Léo Lioni, oui.
Ouais.
C'était des taches de couleur.
C'était extraordinaire.
Et puis le petit bleu voulait embrasser petit jaune et puis ils sont devenus verts.
Oui.
Et ça va tout à fait dans ce que veut dire Waring, en fait, sur le mélange, le métissage.
Exactement. C'était d'avant-garde.
Le respect de l'autre, enfin.
Voilà, je m'excuse de t'avoir
interrompu. Oui, non, mais c'est intéressant, effectivement, parce qu'il l'avait fait, il l'avait fait d'après le livre.
Oui. Alors maintenant, on en est à Mimi.
On en est ?
À Mimi.
Oh ben on peut écouter Mimi parce que Waring, vous allez voir, il fait de la musique avec tout.
Alors, on y va.
Quand nous nous disons bonjour, ça fait ce bruit toujours. Fais-moi un Mimi. Fais-moi un Mimi. M-I-M-I. Mimi. La 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 la. Bien serré, les lèvres se touchent, puis d'un coup on ouvre la bouche. Fais-moi un mimi. Fais-moi un mimi. M-I, M-I. La 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 la. Tu m'as tapé, je t'ai mordu.
Alors oui, Waring, il fait de la musique avec tout. Il fait de la musique avec des bisous, il fait de la musique avec son corps aussi. Et là, on va écouter « Fais voir le son de ta peau ».
Alors, je vais vous expliquer plus en détail quand on me fait des mimis. on arrête Fais-moi un Mimi, on écoute Fais voir le son sur Radio Libertaire dans des cailloux dans l'engrenage avec Françoise Tenier qui nous raconte l'histoire de la chanson pour enfants.
C'est parti.
Ta peau soit du café au lait, chocolat, du beurre ou du pain frais. Quelle que soit la couleur, elle est pareille. Quand on regarde avec les oreilles, tout dépend de l'endroit où tu tapes, du coin de ta peau où tu frappes. Fais voir le son de tes cuisses, fais voir le son de ton ventre, fais voir le son de tes côtes. Fais voir le son de tes joues, bien tendu ou tout mou, bien tendu ou tout mou, aux pommes rouges, citron, mandarine, teint rosé, violacé, petite mine. Toutes les peaux de la terre se ressemblent, au micro sur un disque ou une bande. Sur ton corps tu pourras l'écouter, si ton oreille sait regarder. Fais voir le son de tes cuisses, fais voir le son de ton ventre, fais voir le son de tes côtes, fais voir le son de tes joues, bien tendu ou tout mou, bien tendu ou tout mou, tout mou. De rousseur, peau qui pique, peau de pêche ou de fleurs, bronzé en juin ou pâle en décembre, la couleur est pareille à entendre, que tu viennes du froid ou du chaud. Voici le son de la couleur de ta peau. Fais voir le son de tes cuisses, fais voir le son de ton ventre, fais voir le son de tes côtes, fais voir le son de tes joues, bien tendu ou tout mou, bien tendu ou tout mou, que tu viennes du froid ou du chaud. Voici le son de la couleur de ta peau.
Moi, j'avoue, je ne me lasse pas de faire voir le son de ta peau. D'abord parce que le thème est intéressant, déjà. Et ensuite, parce qu'au niveau musical, c'est vraiment formidable. Alors, il faut dire que Waring, quand il arrive fin des années 60, donc musicien inventif et éclectique, j'ai envie de dire qu'il mange à tous les râteliers musicaux, hein. Le blues, le folk américain, le jazz, la chanson traditionnelle, pour faire de la musique, tout lui est bon, en fait, hein. Là, c'était fais voir le sang de ta peau, on tape sur les cuisses, on tape sur les joues, peau tendue ou tout mou. Pareil.
Il a été vraiment d'avant-garde.
Totalement. Et c'était une époque où la musique était... on était dans un peu le consensuel, les choses gentilles. Et lui, il fait de la musique, quoi. Il ne fait pas de la musique pour enfants. Il fait vraiment de la musique. D'ailleurs, derrière, dans cette chanson qu'on vient d'entendre, d'ailleurs, on entendait un trombone. Je ne sais pas si vous avez t'as entendu le trombone. Et le trombone, c'est le trombone d'Alain Gibert. Et Alain Gibert est un tromboniste qui va accompagner Waring pendant toute sa carrière. Et Gibert, il est auvergnat. Et il fait aussi de la musique traditionnelle. Il va entraîner, Waring là-dedans. Il va faire avec lui un disque qui s'appelle Schnock et cinq frères dans le pied, cinq frères dans le puits, pardon. Et on va y entendre des choses très, très étonnantes, comme par exemple le balalose, qui est un lithophone fabriqué de toutes pièces par Waring et par Gibert. Waring, donc, il touche à tout. On s'ennuie jamais avec Waring. Alors, son grand tube, c'est les grenouilles, qu'il n'a jamais cessé de réinterpréter de façon différente. On pourrait faire toute une demi-heure avec les différentes interprétations des grenouilles et on ne s'ennuierait pas.
Et là, on n'a pas les grenouilles aujourd'hui.
Non, on ne va pas prendre des grenouilles parce que c'est plus une histoire qu'une chanson. Et je voulais... Tout le monde connaît les grenouilles, en fait.
Oui, c'est
alors
vrai.
Que tout le monde ne connaît peut-être pas le son de tapou, connaît peut-être pas le...
Caillou bambou que tu voulais...
Et caillou bambou, oui, je voulais plutôt passer caillou bambou. C'est encore une autre illustration de la musicalité de ce que peut proposer Waring.
Eh bien, c'est parti sur Radio Libertaire.
Je suis descendu dans mon jardin, cueillir des cailloux qui poussent dans mes laitues. J'en ai mis un dans le creux de ma main, avec l'autre j'ai tapé dessus. Cailloux, cailloux, tapez-vous, battez-vous, cognez-vous. Cette bagarre est une merveille.
Cailloux de Steve Waring dans Des cailloux dans l'engrenage sur Radio Libertaire. Merci Françoise Ténier pour nous parler de l'histoire de la chanson pour enfants.
Je suis descendu dans ma forêt pour cueillir les fruits qui pendent des flamboyants. L'arbre de flamboyant. Je me suis mis à secouer ces haricots en plus grand. Haricots, haricots, adaptez-vous, battez-vous, cognez-vous. Cette bagarre est une merveille, un vin délice pour les oreilles. Haricots, haricots, adaptez-vous, battez-vous, cognez-vous. Avec vous faites encore de temps. C'est du soleil pour mes tympans. Je suis descendu dans mon ruisseau pour cueillir quelques tiges de bambou. Une fois fendu comme il faut, je donne des coups, ça claque au bout. Bambou, bambou, tapez-vous, cognez-vous. Cette bagarre est une merveille, un vrai délice pour les oreilles. Bambou, bambou, tapez-vous, battez-vous, cognez-vous. Vrai que vous faites encore maintenant, si du soleil pour mes tympans.
ces cailloux bambous qui sont du soleil pour nos oreilles. Ben, Waring, c'est vraiment du soleil pour nos oreilles. Alors, il a fait aussi un disque de chansons traditionnelles françaises qui s'appelle « Il était une chanson ». Et il a eu, après sa fille Alice, il a eu un fils qui s'appelle Arthur et qui est né trisomique. Ce qui l'a amené à s'intéresser à la petite enfance. Et il a publié 3 disques pour la petite enfance, Le Colporteur, L'Ogresse et Pousse. Et il a collaboré de façon très, très serrée avec l'éditeur Enfance et Musique. Mais ce musicien tout à fait exceptionnel, il a aussi œuvré du côté du jazz, et entre autres dans une collection qui s'appelle Chevance et dont on va parler maintenant. Et là, on pourrait écouter Image. Image, c'est lui. C'est Chevance Outre Musique, oui. C'est dans le disque qui s'appelle Chevance Outre Musique. Et là, on va voir un autre aspect de Waring. Assez loin des grenouilles. Même très loin des grenouilles.
Je regarde l'eau. J'approche mon visage. Qu'est-ce que je vois ? Mon image. Bonjour, image. Hein ? Mon image m'envoie un jet d'eau en pleine figure. Comme une corde, et je tire. Mon image sort de l'eau et atterrit à côté de moi. Je perds l'équilibre, je tombe. Les yeux dans l'eau et je vois mon image au-dessus. Elle approche son visage, puis elle me dit à moi: bonjour, image. Je lui envoie un jet d'eau en pleine figure. Elle attrape le jet d'eau comme une corde et elle tire. Je sors de l'eau tellement vite que je deviens un oiseau. Je fais un tour dans l'air. Puis je me pose sur sa tête. Mon image trouve ça drôle. Elle rigole. Elle rit tellement longtemps qu'elle devient une girafe. Une girafe qui me prend pour une cacahuète. Elle m'avale. Je glisse dans un long tunnel noir. Je me retrouve dans une pièce toute noire. Mais à côté de cette pièce noire, il y a une autre pièce illuminée. Ça se voit au rayon de lumière qui passe sous une porte juste en face de moi.
doucement, j'ouvre cette porte. Qu'est-ce que je vois? Une deuxième porte que quelqu'un ouvre en même temps que moi. Ah, c'est toi, Image. Bonjour, Image. Bonjour, Image.
Alors, Image, c'est tiré bonjour, de la neurologie, c'est que, ouais, qui a été publié chez Chevance, dont on va parler tout à l'heure. Et ce qu'on entend, la musique qu'on entend derrière est interprétée par le Workshop de Lyon. Une musique tout à fait un peu étonnante quand on s'adresse à des enfants, en tout cas à cette époque.
Oui, c'est du free jazz.
C'est du free jazz, carrément.
Ah, c'est... Je ne me souviens pas de cette chanson-là. Là, j'avoue que je suis... épaté.
Il faut réécouter Mirobolis en entier.
Oui, tout à fait. Eh bien, merci pour cette découverte. Eh bien, puisque nous parlons d'images, nous allons faire une petite pause images. Mais attention, pas n'importe lesquelles. C'est un livre, un documentaire cette fois, sur la parité filles et garçons chez Actes Sud Junior. Et Carina Loire, les textes, Eva Coste, les images, justement. Ça vaut 15,50 €. C'est encore un grand beau livre. Et cette fois, il y a une quatrième de couverture. Et je vais vous la lire. « Un petit pas pour l'homme, le pays des droits de l'homme ». Ça, c'est des lignes qui sont entre guillemets. « L'homme est un loup pour l'homme et les femmes, alors ». Bien qu'elles représentent environ la moitié de la population mondiale, les femmes restent souvent invisibles dans les récits historiques. Elles ont pourtant toujours été au cœur de la société et des activités humaines, en travaillant la terre, en faisant du commerce et des découvertes, ou en explorant le monde. Ce livre retrace le long chemin des femmes des siècles précédents et les combats de celles d'aujourd'hui pour atteindre la parité, c'est-à-dire une égale représentation des hommes et des femmes dans tous les aspects de la société et dans tous les pays du monde. Des combats qui sont loin d'être terminés. Alors, ce livre est paru en 2020. Lucie, là je commence par le premier texte. Lucie, la mère de l'humanité. En 1974, une équipe d'anthropologues découvre un squelette vieux de 3 millions d'années en Éthiopie. C'est une jeune fille australopithèque de 20 ans, mesurant près de 1,10 m qu'il baptise Lucie. À l'époque, elle est considérée comme la mère de l'humanité, la superstar de la préhistoire. L'union fait la force. La présentation habituelle des rapports entre l'homme et la femme préhistorique est plutôt simpliste. D'un côté, l'homme fort et musclé, gourdin à la main, part à la chasse pour rapporter du gibier, et de l'autre, sa femme, faible et soumise, à l'abri dans sa grotte, occupée à nourrir sa famille et à élever ses enfants. Aujourd'hui, les scientifiques pensent que face à la dureté des conditions de vie, les relations étaient basées sur l'entraide et la solidarité. Sans hiérarchie entre les sexes, au paléolithique supérieur, c'est-à-dire de moins 45 000 à moins 12 000 ans, les femmes se chargent du dépeçage, de la transformation des animaux tués. Elles grattent les peaux, fabriquent des outils, des armes, des parures. Elles cueillent des plantes, ramassent des œufs, permettant les jours de chasse non fructueuses d'assurer la nourriture du clan. Elles peuvent aussi jouer le rôle de rabatteuses pour faire sortir le gros gibier et pratiquer le lancer. Selon les chercheurs, les muscles des bras des femmes de Néandertal ressemblait à ceux de nos meilleurs haltérophiles. Quel talent ! Les peintures rupestres qui ornent les parois des cavernes préhistoriques sont souvent attribuées aux hommes. Or, des études ont montré que de nombreuses mains réalisées au pochoir par exemple à la grotte de Pêche-Merle dans le Lot, en France, sont des mains de femmes. L'index et l'annulaire sont de la même longueur, ce qui n'est pas le cas des mains masculines. Et depuis, Lucie est détrônée. On a trouvé au Tchad, en 2001, un squelette encore plus ancien. Voilà pour la parité. Françoise, je te propose de mettre le dernier morceau de Steve Waring. Il est court pour faire la...
C'est lequel? Non, le gnou, ce n'est pas Waring, hein, c'est autre chose.
Ah, c'est autre chose.
Donc,
bon.
J'aimerais mieux...
Ah bon, alors donc, vas-y, c'est à toi.
Alors, on a dit que Waring, il faisait le lien entre les années 60 et les années 70. En fait, il est toujours en activité, continue à faire des concerts, même si récemment, il n'a pas publié de disque. Ce qu'on a entendu, c'était donc Image avec le workshop de Lyon. Et donc, free jazz, quelque chose de très, très inhabituel dans un disque pour enfants à l'époque. C'est un disque qui date des années 70 et qui est paru dans une collection tout à fait exceptionnelle qui était au Chant du Monde et qui s'appelle Chevance. Alors, le Chant du Monde, à l'époque, était dirigé par un certain Philippe Gavardin, qui, dans une vie antérieure, avait été instituteur et qui trouvait que les disques pour enfants de l'époque étaient un petit peu ronronnants. On disait des paroles gentilles, la musique était... n'est pas du tout dérangeante, enfin, on était dans... On ronronnait, quoi, voilà. Et il avait pour ami un certain François Ruy Vidal. Et François Ruy Vidal, ceux qui connaissent la littérature enfantine le connaissent bien.
Ah oui, éditeur qui pique, enfin, on peut dire, qui n'est pas...
pas classique, hein.
Oui, j'arrive pas à trouver un mot pour le...
Atypique, oui. Et puis révolutionnaire, vraiment révolutionnaire, je dirais.
Et puis qui dérange au départ, la première. Il a beaucoup dérangé.
Et alors, Philippe Gavardin, c'est l'ami de François Ruy Vidal. Et il a un peu la même conception des documents qu'on adresse aux enfants. Ruy Vidal disait, il n'y a pas l'illustration pour enfants, il y a l'illustration. Il n'y a pas la couleur pour enfants, il y a la couleur. Et Gavardin va dire, il n'y a pas la musique pour enfants, il y a la musique. Il n'y a pas les paroles pour enfants, il y a les paroles. C'était une idée totalement, on peut dire, révolutionnaire. On peut dire aussi qu'il y a un avant et après Chevance dans l'édition des disques pour enfants, et notamment en matière de chansons pour enfants. Alors, Philippe Gavardin va déjà faire appel à quelqu'un qu'il a repéré dans son catalogue, qui est donc Steve Waring, qui va être l'un des premiers à enregistrer dans la collection Chevance. Il va aussi faire appel à des gens qui ne sont pas spécialement étiquetés chanteurs enfants. Je pense par exemple à Anne et Gilles, qui sont des chanteurs de cabaret et à qui il va faire interpréter des poèmes de Destos qui ont été mis en musique. Et là, on va écouter Le Gnou par Anne et Gilles.
Qui frappe à ma porte?
C'est un jeune fan. Ouvre-moi ta porte, je t'apporte un pan. Ouvre-moi ta porte, j'arrive de l'an. Pan, pan, pan.
Qui frappe à ma porte?
Pan, pan, pan. C'est un jeune fan.
Qui frappe à ma porte?
Ouvre-moi ta porte. Pan, pan, pan. Je t'apporte un pan.
Qui frappe à ma porte?
Ouvre-moi ta porte. Pan, pan, pan. J'arrive de l'an.
Mon père est un gnou, mais on ne sait où. Un gnou à queue blanche qui demain dimanche te fera les cornes sur les bords de l'Orne.
Pan, 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 qui frappe à ma porte. Pan, 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 c'est un jeune fan.
Qui frappe à ma porte.
Ouvre-moi ta porte. Pan, 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 je t'apporte un pan.
Qui frappe à ma porte.
Ouvre-moi ta porte. Pan, 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 j'arrive de l'an.
sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste 89.4, Françoise Tenier, qui nous fait l'historique de la chanson pour enfants dans Des cailloux, dans L'engrenage, l'enfance, poil à gratter. À toi, Françoise.
Alors, Philippe Gavardin donc, va avoir une démarche totalement inhabituelle, puisqu'il donc, il va faire appel à des artistes de cabaret pour interpréter des chansons, pour interpréter des textes qui sont destinés aux enfants. Et il va travailler avec un musicien qui s'appelle Jean-Loup Méchalier, qui va, entre autres, faire la musique de l'adaptation du Petit Poucet, mais... et qui va être une chose tout à fait étonnante. L'idée de Philippe Gavardin, c'est que les disques sont écoutés conjointement par les parents et les enfants. Et son idée est que si un disque qui ennuie un adulte n'est pas un bon disque pour enfants. C'est un petit peu son idée. C'est d'ailleurs une idée de cette écoute conjointe par enfant qui va être reprise ensuite dans les années 80 par l'association et le label Enfance et Musique. Il va donc faire beaucoup un certain nombre de disques, essentiellement des 45 tours. Et là où il va être aussi révolutionnaire, c'est dans la présentation de ces documents. Il y a une grande attention qui est apportée à la qualité des textes, à la qualité de l'interprétation, à la qualité de la musique, mais aussi à la qualité du pressage, parce que jusqu'à présent, les disques pour enfants étaient pressés un petit peu n'importe comment à la va-vite. C'est pour les enfants, on ne va pas se fatiguer à faire quelque chose de vraiment très bien. Et il va faire proposer des pochettes qui vont être illustrées par des gens qui s'appellent Henri Alron, Tina Mercier et quelques autres, qui sont de l'écurie de son ami François Vividal. C'est vraiment une collection exceptionnelle dont on a des souvenirs dans un CD qui est paru il y a 2-3 ans, qui s'appelle Chevance, 2. Outre musique, qui a fait une espèce de florilège de tout ce qu'on pouvait trouver de génial dans cette collection. Ce disque a été réalisé par un monsieur qui s'appelle Sylvain Quément et qui est le créateur de Radio Minus. Et là, qui a fait un travail de documentation absolument remarquable. Donc, il y a un avant et un après Chevance. Alors, chez Chevance, on trouve des choses beaucoup plus classique. Par exemple, on va trouver Moreau, le couple Moreau-Imbert. Et là, on va écouter Hippo, Hippo, petit hippopotame.
Hippo, Hippo, petit hippopotame, sais-tu chanter la gamme? Hippo, hippo, petit hippopotame, as-tu à l'école appris la clé de sol? As-tu appris à chanter, à dessiner? As-tu appris à danser, à respirer? As-tu par cœur bien appris le bonheur? La joie de vivre. Hippo, hippo, petit hippopotame, sais-tu chanter la gamme? Hippo, hippo, petit hippopotame, as-tu à l'école appris la clé de sol?
Alors là, on est dans quelque chose de bien mignon, de bien gentil. D'ailleurs, ce sont des chansons que Imbert et Moreau avaient publiées, Continent Europe de Lune, qu'ils avaient publiées au disque Alvarez avant la création de Chevance. Donc, Philippe Gavardin a récupérer ces chanteurs. Il a vu chez eux un potentiel qui était tout à fait énorme. Et il va leur faire chanter des choses beaucoup moins gentilles, comme par exemple une chanson qui s'appelait « Papa, maman, quand vous serez mort ». Et qu'est-ce qu'ils font les grands et qu'est-ce qu'ils font les grands quand nous, on va au lit ? Et il y a et puis une chanson aussi sur la naissance de leur deuxième enfant. Où ils racontent dans la chanson la naissance de leur deuxième enfant. Donc c'est des choses qui ont un peu choqué les foules, mais c'était tout à fait dans l'esprit Chevance. Ça a été vraiment un coup de tonnerre dans l'édition Chevance. Hein. Faut quand même voir les choses comme elles sont. Après il y aura Enfance et musique chorale qui va faire aussi un grand remue-ménage. Et il y aura ensuite dans les années 90 une collection qui aura une courte durée qui s'appelle Zéro de conduite et qui sera un petit peu dans le même esprit. Mais ça c'est pas le chapitre d'aujourd'hui.
Zéro de conduite, c'est inspiré par le film.
Oui, absolument, avec l'idée Zéro de conduite. Hein, on se révolte, enfin...
Ouais, oui, c'était un anarchiste.
Oui, tout à fait.
J'ai un trou de mémoire,
Jean Vigo.
Jean Vigo,
oui, oui,
fils d'un anarchiste activiste.
Oui, oui, et donc le zéro de conduite, la collection, est tout à fait dans cet esprit-là. Mais c'est une autre histoire parce que c'est plus tard. Alors, ce que va faire Chevance, on sort un peu du cadre, mais Chevance a fait une collection qui s'appelait « Les berceuses du monde entier ». Qui est toujours édité, et il a eu cette idée géniale de demander à Marina Vladi, qui était russe, les chansons de son enfance russe, de demander à Colette Magny les chansons de son enfance française, de demander à Naomi Modi les chansons de son enfance afro-américaine, et a fait interpréter les chansons par ces personnes. Et c'est une chose tout à fait formidable, dont l'idée a été reprise ensuite par Didier Jeunesse dans les comptines du monde entier. On retrouve, enfin, ils n'ont pas copié, c'est le même esprit.
Hein. Alors, les comptines du monde entier, c'est une collection qui continue et qui est offerte aux enfants actuellement. Encore tous les, il y a beaucoup d'enfants qui ont ces grands livres disques qui sont magnifiques, qui sont illustrés, que les gamins ont grand plaisir à tourner les pages.
Alors, ils ont même eu un prix Charles Croix in honorem, et j'ai eu le bonheur de remettre à Michel Moreau, qui avait créé la collection, de lui remettre ce prix in honorem pour l'ensemble de cette collection qui est absolument remarquable. Mais là, on est plus dans les chansons traditionnelles. On sort un peu du cadre, mais ça fait rien, on peut le dire.
Oui.
Voilà.
Alors maintenant, nous allons terminer parce que nous n'avons plus que 10 minutes avant le passage avec l'autre émission sur, enfin bref, on verra tout à l'heure. Henri Dess, c'est ça la suite.
Alors on va peut-être finir sur Henri Dess.
C'est un géant, Henri Dess.
Alors Henri Dess, c'est avec Waring et Sylvestre, l'un des chanteurs les plus connus. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, parce qu'actuellement, le gars très connu dans la chanson enfant, c'est Aldebert.
C'est vrai, hein, mais bon,
mais je trouve
mon
que...
petit-fils écoute Henri Dess quand il vient chez moi.
Eh bien, ton petit-fils a très bon goût. Et donc, Henri Dess, c'est l'un des chanteurs les plus connus pour enfants après Anne-Sylvestre. En fait, il a démarré dans les années 60 avec une carrière pour adultes. Et il a écrit ses premières chansons pour son fils Pierrick. Et en 1977, pour illustrer son premier album qui s'appelait Cache-Cache, après il y aura beaucoup d'autres Cache-Cache, il fonde sa première maison de disques qui s'appelle Marie-Josée. Marie-Josée, c'est sa femme qui s'appelle comme ça. C'est sa femme et son manager. Et il confie l'illustration de ses albums à un copain qu'il a. Et ce copain, il s'appelle Étienne Delessert.
Ah oui.
Ce qui n'est pas rien. Alors après, on aura la petite Charlotte, Flagada, le beau tambour, l'âne blanc, la glace au citron, le crocodile, l'hirondelle et le papillon. Et il remporte un franc succès dès ses premières apparitions en public. Et il remplit régulièrement la salle de l'Olympia depuis 93. Alors, j'ai envie de dire que le secret de son succès, c'est qu'en fait, lui aussi, il parle aux enfants de leur vie quotidienne, il parle simplement, et surtout, il a une qualité extraordinaire, c'est-à-dire, on écoute Henri Dès, refrain, couplet, deuxième refrain, on a déjà repéré au moins la première phrase du refrain, et ainsi de suite, et à la fin, on sait le refrain par cœur. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, on va entendre Monsieur Lachaume. Un certain Monsieur Lachaume a écrit à Henri Dès.
J'ai reçu une lettre d'un certain Monsieur Bernard Lachaume, et il m'écrit ceci. Monsieur, je vous trouve vos chansons très bien, etc. Vous me dites, mon cher Henri, vous paraissez souvent surpris d'entendre les papas chanter très peu au cours des spectacles. C'est vrai. Pourquoi ? Et là, vous vous apportez une réponse intéressante à une question que je me pose depuis pas mal de temps déjà. Vous écrivez, ce n'est pas parce que les papas chantent faux, bien sûr que non, les papas chantent pas faux, la preuve, do, mi, sol, do. Hein ? Mais, mais c'est parce que les papas ne connaissent pas par cœur les paroles des chansons. Mais c'est ça, Monsieur Lachaume, vous avez parfaitement raison. Alors, pour aider les papas qui ne les connaissent pas par cœur, nous allons projeter sur un grand écran les paroles d'une chanson, en l'occurrence La Petite Charlotte. Les enfants, vous n'avez pas besoin des paroles, les mamans non plus, et voici comment vont se répartir les rôles. Moi, je vais dire pam pam pam, les enfants vont répondre qui est là, et les mamans, c'est la petite Charlotte. Quant à vous, les papas, n'aurez qu'à lire ce qui est marqué là-dessus. Bien, on répète d'abord avec les enfants. Pam pam pam.
Yeah.
Oui, c'est pas mal, j'ai eu mieux. Pam pam pam.
Yeah.
Voilà, très bien. Les mamans, c'est la petite Charlotte.
C'est la petite Charlotte.
Oh, c'est beau. Encore une fois pour mon plaisir. C'est la petite Charlotte.
C'est la petite Charlotte.
Voulez-vous envoyer le CD pas, s'il vous plaît?
Ah, désolé, il y a un petit hic dans le disque.
C'est dommage parce qu'on a entendu tous les papas chanter. Alors ça donne une bonne idée de l'atmosphère qu'il y avait dans les spectacles d'Henri Dès où les gosses arrivaient, ils savaient toutes les paroles. Moi, je l'ai vu au théâtre de la ville. Les musiciens faisaient l'intro et les gosses partaient direct sur le couplet.
Le disque est rayé, je viens de le regarder.
Ah oui, il y a un problème. Bon, bah voilà.
Ah oui, il y a un gros problème.
Il y a un gros problème.
Donc
on ne peut plus
passer. On devait finir sur Henri Dès. Est-ce que tu as encore...
On peut finir sur les festivals et puis on finira peut-être avec la balade des escargots de Claude Fonfrède.
On n'a plus qu'un peu plus de 5 minutes. Enfin,
5 minutes. Je peux dire deux mots sur les festivals.
Oui.
Alors Henri Dès, moi je l'ai vu pour la première fois en 1977, un festival de chansons pour enfants qui était organisé par Loisirs Jeunes, qui était un organisme qui s'occupait de faire connaître tous les produits culturels pour enfants. Et à ce festival, il y avait entre autres Jacques Douai. Il y avait Marenberg qui chantait Anne Sylvestre, et il y avait Claude Fonfrède. Et les festivals, je voulais attirer l'attention sur ces festivals qui sont des endroits tout à fait intéressants et à divers points de vue. D'abord parce que c'est le lieu où on fait des spectacles vivants, ce qui est extrêmement important. C'est autre chose qu'un écran de télé ou un écran de smartphone. D'autre part, les enfants amènent les parents. C'est aussi un lieu où les enfants amènent les parents. Et c'est aussi un lieu où il se passe des choses, parce qu'en général, il y a des résidences des artistes dans les écoles, dans les hôpitaux, dans beaucoup de lieux. Et ça a été le début aussi d'opérations de travail d'animation avec les enfants, et notamment des ateliers d'écriture. C'est comme ça qu'on a eu à René Mailloux à Lyon, qui a fait un disque qui s'appelle Le Serpent et son net. On a eu Gaby Marchand à Fribourg avec de nombreux disques. On a eu Daniel Baume à Marseille avec un remarquable disque qui s'appelle C'est chouette la vie, et qu'on a eu Christian Ferrari à Paris, et beaucoup d'autres ateliers d'animation. Mais on va écouter quelqu'un qui était à ce festival de la chanson enfant, qui s'appelle Claude Fonfred, qui avait découvert un jour un salon du livre. Il a découvert les chansons de Ma façon de Pierre Gamarra, et il a eu envie, il a acheté le livre pour son fils qui était petit à l'époque, et il a eu envie de mettre ses chansons en musique. Et ça a été pour lui le début d'une longue carrière avec sa camarade Dominique Becker. On va écouter La balade des escargots.
J'ai l'impression que je me suis trompée dans... On va voir.
Tant pis si c'est pas La balade des escargots.
C'est le CD2.
On peut écouter Le soleil se lève de Gaby Marchand.
Là, je suis un peu perdue. Je crois que c'est pas le bon disque. C'est quoi là ce qu'on vient de passer?
Ce qu'on vient de passer, c'est Henri Dess en concert.
Oui, mais là, juste à l'instant.
Eh ben, c'était Monsieur Lachaume, Henri Dess en concert.
Bon, alors là, je sais plus que.
Bah, c'était peut-être le dernier disque. Hein.
Oui, bon, bah, là, je crois
que... On va s'arrêter,
oui, parce que là, j'étais un peu...
Un problème technique.
Oui, j'étais un peu perturbée par le disque qui était rayé, et je me suis un peu trompée, un peu mélangée. Par contre, il faut laisser l'indicatif. L'indicatif, laisser les enfants d'Anne Sylvestre. Et... Tu n'as pas fini.
Ah ben non.
Alors tu vas revenir.
Oh ben oui, avec la suite.
Parce que je crois qu'il va y avoir... tu vas prendre un abonnement à Radio Libertaire.
Oh ouais, parce qu'il y a des tas de trucs à dire, parce qu'il y a des choses à faire. Même sur les chansons traditionnelles, il y a des chansons à faire sur ce qu'on raconte aux enfants. Moi, je trouve que c'est important. Et même aussi la musique qui accompagne, quelle musique on leur propose.
D'accord.
Et là, il y a beaucoup d'évolution et ça fait partie aussi de l'histoire.
Eh bien, écoute, à la rentrée, tu es d'accord pour revenir à
Absolument,
la rentrée ?
Absolument, avec plaisir.
En septembre ?
En septembre.
Eh bien, alors, rendez-vous est pris en septembre. Je crois que Françoise Tenier, sur Radio Libertaire, on va garder son rond de serviette pour son abonnement à la radio sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Je te remercie vraiment. Et désolé pour ce petit problème technique à la fin, ce disque rayé, je n'ai pas compris.
La technique nous trahit, c'est terrible.
Oui. Eh bien, nous allons écouter l'indicatif de « Des cailloux dans l'engrenage, l'enfance poil à gratter ». C'était Florence au micro. Au revoir.
Laissez les enfants pleurer, ne tarissez pas leurs larmes, elles lavent et le désarment ce qui les fait chavirer. Laissez les enfants verser ces ruisseaux qui les apaisent et s'en vont noyer les braises de leurs chagrins insensés. Laissez-les. Empêcher que l'on réprime cette rosée légitime. Ils ont des fleurs à arroser. Laissez les enfants pleurer.
abîmes. Laissez les enfants rêver, ne les cassez pas d'avance. Donnez-leur au moins la chance d'apprendre un jour à voler. Laissez les enfants choisir des chemins qui vous dépassent. N'effacez jamais leurs traces, vous les verrez revenir. Laissez-les. Ne souffrez pas qu'on dédaigne la lumière qui les baigne. Ils ont des richesses à donner. Laissez les enfants rêver. Avant qu'on les éteigne, laissez les enfants grandir, ne renforcez pas les cages, ne craignez pas les orages, ni les torrents à franchir. Laissez les enfants gagner le droit d'étendre leurs ailes dans la lumière nouvelle d'une vie à inventer. Laissez-les, ils vont s'envoler ensemble, un même ciel les rassemble, ils ont des sommets à gravir. Laissez les enfants grandir avant qu'ils nous ressemblent. Laissez-les.
Laissez-les.